أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
الله تعالى کا
Allah a accordé à l'homme une grâce immense en faisant de lui le meilleur de la création. En ce faisant, il lui a accordé une intelligence par l'entremise duquel il arrive à maîtriser la création de Dieu et ainsi il arrive à en tirer le meilleur avantage de la création. Et chaque jour, cette intelligence de l'homme crée de nouvelles inventions. Les progrès que nous voyons aujourd'hui étaient inconnus 10 ans de cela. Et les progrès qu'on avait vus 10 ans de cela étaient inconnus 20 ans de cela. Et en reculant ainsi, on va voir la capacité de l'intelligence de l'homme et l'importance de ses inventions. Mais ces progrès matériels sont-ils les seuls buts et les seuls objectifs de la vie de l'homme? Les gens avides de ce bas monde à toute époque ont cru la même chose. Ils croient que ces progrès, que leur force, que ce monde matériel et tout ce qu'il contient est mon but ultime. Ils croient aussi que leur but est de prouver leur supériorité sur ceux qui leur sont inférieurs, que leur but est de faire de leur richesse la raison de leur choix, et que leur but est de contrôler les autres. Et même une personne ordinaire qui ne possède pas de grandes richesses peut croire aussi la même chose. Et les jeunes d'aujourd'hui qui ne sont pas intéressés par la religion, qui sont enclins vers ce monde, croient que ces nouvelles inventions, la télé, l'Internet, sont les seuls moyens pour leur progrès. Et ils sont très influencés par ces inventions. Ce sont là des concepts complètement erronés. Et ces concepts ont fait naître de grands usurpateurs. Ce concept a fait naître de grands tyrans. Ce concept a généré des gens qui s'adonnent à bribes abattues au plaisir de ce bas monde. Et ce concept a créé à toute époque des pharaons qui pensaient que nous possédons tout pouvoir, toute gloire. Mais ce concept est nié par Dieu. Dieu qui est le Rabbul Alamin, lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Dieu est en train donc de nier ce concept. Il déclare que ce que vous croyez être le but de votre vie ne l'est pas. L'objectif de votre vie n'est pas uniquement de profiter de ces choses matérielles et de quitter ce monde. Tel n'est pas votre but. Allah déclare « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » J'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour mon adoration. À ce propos, le Messie premier salam déclare que le but premier de l'homme est de reconnaître Dieu et de lui vouer obéissance. Tout comme Allah déclare, Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. J'ai créé et les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Malheureusement, la majorité des gens de ce monde, après avoir atteint l'âge de la maturité, ne comprennent pas leur obligation et leur but premier. Ces personnes abandonnent Dieu et se penchent complètement vers le monde. Ils sont éblouis à tel point par ce monde qu'ils se tournent point vers Dieu. Pour ces personnes, Dieu n'existe pas. Ces personnes se perdent complètement en ce bas monde. Ils ne savent pas si Dieu existe. Pour nous guider dans cette direction, c'est-à-dire pour comprendre l'objectif de notre vie et pour savoir comment adorer Dieu, Dieu a toujours envoyé des prophètes. Des prophètes qui viennent enseigner à leur peuple ces méthodes pour adorer Dieu et pour atteindre l'objectif de leur vie. Ensuite, lorsque l'homme fut apte à comprendre tous ces messages, lorsqu'intellectuellement il est arrivé à un niveau supérieur, lorsqu'il a pu commencer à comprendre ses actes d'adoration, et lorsqu'il a progressé intellectuellement et matériellement, lorsqu'on a commencé à avoir plus de communication entre les peuples, à cette époque, Dieu a envoyé l'homme parfait, le Khatabul Anbiya, Sayyidina Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, avec la dernière charia. Et en recevant l'ordre de la part de Dieu, il a annoncé Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre foi et j'ai complété mes faveurs sur vous et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Et ce Coran est venu donc parachever la foi. Ce Coran nous enseigne comment se rapprocher de Dieu. Il nous montre comment atteindre l'apogée dans le domaine de ses actes d'adoration, comment se comporter dans la société. Ce Coran vient nous enseigner comment traiter l'ennemi et comment traiter les démunis de la société. Il nous montre aussi comment s'acquitter de ses devoirs envers les femmes. Le Coran nous parle aussi de ces nouvelles inventions et quels sont les avantages que va en tirer l'homme. Le Saint-Coran évoque tout ce qu'il trouve dans les cieux et sur terre en se limitant à la compréhension de l'homme. Et il a donné des directives à ce propos. L'homme, 1400 ans de cela, n'a pu comprendre ces faits qui ont été évoqués dans le Saint-Coran. Et l'homme d'avant cette période ne pouvait même pas comprendre ces points. Le Saint-Coran a mentionné des faits concernant les progrès d'aujourd'hui. Le Saint-Coran évoque aussi des faits concernant le futur. Lorsque le Coran fut révélé, 1400 ans de cela, un simple croyant, un simple musulman ne pouvait pas comprendre ces faits. Le saint prophète Mohammed B. lui, par l'entremise de sa perspicacité, pouvait comprendre ces points. Il était une lumière parfaite et il a été éclairé par Dieu lui-même. Et il a aussi éclairé ses propres compagnons. Et ils en ont profité selon leurs aptitudes. Il leur a enseigné comment adorer Dieu et il les a poussés vers les sommités de ses actes d'adoration. Le saint prophète Mohammed paix sur sa lui leur a fait comprendre l'objectif de leur vie. Ils ont reçu cette lumière du saint prophète Mohammed paix sur sa lui et selon leurs aptitudes et leurs capacités, ils ont répandu cette lumière. Et les lampes se sont allumées les unes après les autres. Et quant au point que l'homme ordinaire ne pouvait pas comprendre à l'époque, à ce propos, il leur a été dit que grâce à ce livre parfait, jusqu'à la fin des temps, les lampes vont s'allumer et les croyants du futur vont voir les faveurs de Dieu. Quant à celui qui est amoureux de ce bas monde, verra cela par l'entremise de ses yeux d'homme ordinaire. Mais quant au croyant véritable, il va faire des efforts pour atteindre le but de sa création et dans ses inventions, il verra l'accomplissement des promesses et des prophéties de Dieu. Le croyant n'y voit pas uniquement des avantages matériels. Le croyant va comprendre le but de sa vie et il va faire des efforts pour profiter de cette lumière qui a été révélée par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, 1400 ans de cela, a éclairé de sa lumière ceux qui erraient dans les ténèbres, et il les a fait atteindre les sommités dans tous les domaines. De même, aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, celui qui va suivre ce prophète et qui va se lier avec cette charia va sortir de ces ténèbres et sera de plus héritier du paradis de Dieu ici sur terre et dans l'au-delà. Dans la sourate Al-Talaq, Allah déclare à ce propos: Rasulan yatlu alaykum ayatillahi mubayyinatin liyukhrija alladhina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Un messager qui vous récite les signes manifestes d'Allah afin de faire sortir ceux qui croient et font de bonnes œuvres de toutes sortes d'obscurité vers la lumière. Et quiconque croit en Allah et fait de bonnes œuvres, il le fera entrer dans des jardins à travers lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah a en vérité fait pour lui une excellente provision. Si l'on désire avoir le plaisir de Dieu, on doit respecter la sunna du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et on doit suivre aussi l'enseignement qu'il a apporté. C'est en respectant ces enseignements et c'est en suivant l'exemple du saint prophète Mohammed, paix soit lui, que nous allons sortir de l'obscurité, et c'est là que nous pourrons avoir aussi le plaisir de Dieu. Et ceux qui ont profité de cette lumière doivent posséder la foi d'une part, mais ils doivent aussi accomplir de bonnes œuvres. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Le croyant doit accomplir de bonnes œuvres. C'est là un fait important. Il doit éviter les péchés et les turpitudes. Dans le verset que j'ai cité au tout début, Allah a évoqué la même chose, c'est-à-dire que vous devez croire en Allah et en son prophète et accepter le Coran. Et c'est là que vous allez profiter de cette lumière, c'est là que vous serez héritier du paradis. Allah connaît toute action de l'homme. Il connaît aussi quelles sont les actions qui ont été accomplies sincèrement pour Dieu. Il sait aussi jusqu'à quel point on est en train de faire des efforts pour suivre la sunna du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il sait aussi si la foi est sincère ou qu'elle est simple déclaration. Allah nous a accordé de grandes faveurs en envoyant ce prophète, en suivant lequel on pourra avoir le salut ici-bas et dans l'au-delà. Il incombe donc aux croyants de suivre cet enseignement. Ils doivent suivre cet enseignement qui est parfait. C'est un enseignement parfait et complet. Et voyez aussi cette faveur continuelle de Dieu. En disant « Wa akharina minhum », il déclare que la grâce du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et la lumière du saint Coran seront perpétuelles. Après une période d'obscurantisme, le Messie premier alayhi salam viendra et c'est lui qui va profiter le plus de la lumière du saint prophète Mohammed B.S.A. lui. Et ainsi, il va guider les gens de nouveau vers Dieu et il va retirer les hommes de l'obscurantisme et va les mener vers la lumière. Ce Messie promis et ce Mahdi promis va retirer la Oumma et l'humanité de cette obscurité qui a trait à la connaissance et aux croyances. Celui qui va se lier avec cet imam, celui qui va l'accepter, celui qui sera sincère envers lui dans sa relation, celui qui va éviter les futilités de ce bas monde en prêtant allégeance à lui, il aura la bonne nouvelle qu'il va attirer la grâce de Dieu et aura la bonne nouvelle de son paradis. Les Ahmadis ont donc cette bonne nouvelle d'une part, mais ils ont aussi des soucis à se faire. Ils doivent faire leur examen de conscience pour profiter de cette lumière. Il y a la condition yu'min billahi wa ya'mal saliha, c'est-à-dire que vous devez croire en Dieu, certes, mais vous devez aussi accomplir de bonnes œuvres. Et donc en tête tout le temps ces bonnes œuvres. Vous devez connaître et faire la différence entre les bonnes œuvres et les mauvaises actions. Il y a des questions que l'on considère comme insignifiantes. Il y a par exemple l'expression de sa joie. Quelles sont les limites qu'on a fixées dans l'expression de sa joie et quelles sont les limites qu'on a fixées dans l'expression de sa tristesse? Et la joie et la tristesse accompagnent l'homme tout le temps. Et on doit fixer cette limite dans l'expression de sa joie et de sa tristesse. Les musulmans sont influencés par cette société d'aujourd'hui et ils sont coupables de coutumes et d'innombrables innovations. Et lorsqu'ils expriment leur tristesse, ils sont coupables d'autres coutumes et d'innovations. Un Ahmadi doit donc méditer sur cette question. Il doit comprendre que toute action qu'il accomplit doit apporter des avantages. Et dans toute action, il doit respecter les limites fixées par Dieu et par son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai évoqué la joie et la tristesse. Parmi les grandes joies, il y a le mariage. Le mariage est une obligation. Lorsque quelques compagnons ont dit au saint prophète Mohammed paix sur lui qu'ils ne vont pas se marier afin de se consacrer entièrement à l'adoration de Dieu, ils ont été réprimandés par le saint prophète Mohammed paix sur lui. Il a déclaré que la vertu réside dans le fait que vous devez suivre ma sunna et suivre mes enseignements. Le saint prophète a déclaré que je me suis marié, mais je jeûne aussi, je rends culte à Dieu aussi. Et le niveau des actes d'adoration du saint prophète Mohammed B.S.A. lui dépasse notre entendement. C'est donc une obligation pour un musulman qu'il doit se marier. S'il n'y a pas d'obstacle, il doit certainement se marier. Mais maintenant, il y a certaines pratiques qui sont en vogue parmi les musulmans, surtout dans la société pakistanaise et en Inde. Des pratiques, des innovations qui n'ont aucun lien avec l'islam, même de loin. Maintenant, pour certaines coutumes, on fait des dépenses faramineuses. Et dans ces sociétés-là, on fait de telles dépenses avec pompe Les gens croient que ces coutumes et ces pratiques font partie des obligations pour les mariages et que sans ces coutumes, il n'y aura pas de mariage. Il y a par exemple la pratique du mehendi. Maintenant, cette pratique a pris de l'ampleur. Il y a des réceptions à ce propos, on imprime des cartes à ce propos, on décore des estrades à ce propos, et les festins durent plusieurs jours. On organise cela avant le mariage et cela dure plusieurs semaines. Et chaque jour, on place de nouvelles décorations sur l'estrade et on fait des commentaires à ce propos. Aujourd'hui, on a préparé autant de nourriture, autant de nourriture. Toutes ces coutumes sont en train d'influencer aussi ceux qui n'ont pas les moyens. Et ainsi, ces personnes qui n'ont pas de moyens s'effondrent sous des dettes. Ces coutumes sont monnaie courante parmi les non-Ahmadis, mais certains Ahmadis aussi s'adonnent ouvertement à ces coutumes et ces pratiques futiles. Certaines familles, donc, s'adonnent à ces pratiques au lieu d'éviter ces coutumes en acceptant l'imam de l'époque. Ils s'empêtrent dans ces coutumes davantage. Quelques mois de cela, j'ai évoqué cette question du mehendi, c'est-à-dire que l'on ne doit pas faire des dépenses inutiles et que l'on ne doit pas organiser de grandes réceptions pour cela. Ce même jour, à Londres, il y avait une réception de mehendi dans une maison Ahmadi. Lorsqu'ils ont entendu mon sermon, ils ont annulé cette réception et ils n'ont invité que quelques amis de la jeune fille. Et tout le repas qui a été préparé a été envoyé à la Baitul Futuh parce qu'il y avait une réception ici. Voilà donc comment agissent les Ahmadis lorsqu'on leur attire l'attention à propos de quelque chose. Et ils m'ont aussi écrit des lettres d'excuses. Mais je reçois quand même des doléances du Pakistan et de Rabwa. Il est dit que certaines personnes s'adonnent plus qu'il n'en faut à ces coutumes. Rabwa est une toute petite ville, c'est pour cette raison qu'on voit tout cela ouvertement. C'est pour cette raison que je le dis maintenant clairement, c'est-à-dire ne suivez plus ces coutumes futiles, mettez fin à ces coutumes. Le Messie premier, l'Islam, a déclaré dans un de ses écrits que parmi nous, il y a cette coutume condamnable que de dépenser des centaines de roupies inutilement pour des mariages. À l'époque donc, ils dépensaient des centaines de roupies et c'était des sommes faramineuses à l'époque. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de centaines, il est question de centaines de milliers. Et l'on dépense de l'argent que l'on ne possède même pas. Ces centaines de milliers d'aujourd'hui dépassent de loin les centaines d'alors. Le Messie premier, l'Islam, a aussi déclaré que les feux d'artifice aussi sont interdits pour les mariages. Il y avait des feux d'artifice et maintenant on allume d'innombrables lampes de décoration et on dépasse les limites. D'une part, au Pakistan, on déclare et on crie qu'il y a des coupures d'électricité, qu'il n'y a pas d'électricité pendant des heures et des heures et que la cherté de la vie brise l'échine. Mais dans certaines maisons, on est en train de faire des dépenses futiles. En faisant cela, ils sont en train de pousser le pays vers la perdition et sont en train de commettre un grand péché. Les Ahmadis au Pakistan doivent prendre donc des précautions, ne doivent pas faire des dépenses futiles et inutiles. À Rabwa, c'est le Sadr Amoumi qui doit prendre cette responsabilité et doit faire en sorte qu'on ne fasse pas de dépenses futiles pour le mariage, qu'il n'y a pas étalage de richesses pour les mariages. C'est une grâce d'Allah que dans la jamaat, pour les décès, il n'y a pas ces pratiques de 7e, de 10e ou de 40e jour, des coutumes que l'on voit parmi les non-Ahmadis. Des coutumes qui se transforment en fardeau pour les membres de la famille. Mais si on a été affecté par un type de coutume, certainement on pourra être affecté par d'autres coutumes encore. Et on va voir la même chose ici aussi. Les Ahmadis doivent donc comprendre leur statut. Un Ahmadi doit comprendre qu'Allah lui a accordé cette grâce immense que d'être dans la jamaat du Messie premier alayhi salam. Il incombe donc à tout Ahmadi de suivre les enseignements véritables de l'islam. Il y a certaines obligations concernant le mariage. On peut organiser une réception pour le mariage et on peut aussi préparer de la nourriture, mais cela ne veut pas dire que l'on doit préparer des repas pour chaque procession qui vient à la maison pour le mariage. Mais si la loi du pays interdit de telles réceptions, on doit éviter de telles pratiques et on doit inviter uniquement que quelques personnes. Car au Pakistan, à une époque, l'État avait mis des restrictions sur ces réceptions, sur ces processions. Je ne connais pas quel est l'état de la situation aujourd'hui, mais il y a eu des restrictions. Mais en l'islam, ce qui a été enjoint, c'est la walima, le festin de noces. Et en l'islam, c'est la seule réception ou le seul festin qui a été ordonné. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit organiser cela à grande échelle. On doit organiser cette réception selon nos aptitudes et nos capacités. Comme je l'ai déclaré, Allah a déclaré que le but de notre vie est son adoration. Toute bonne action accomplie pour la cause de Dieu se transforme en acte d'adoration. C'est en ayant en tête ces faits que nous pourrons atteindre notre salut. Et ainsi, nous pourrons éviter ces coutumes, ces frivolités, ces dépenses futiles. Et on va éviter aussi ces actes indécents. On va éviter ces crimes et ces délits. Des fois, les gens commettent ces délits inconsciemment. Il y a certains crimes qui sont commis par des tyrans, mais en pratiquant de telles coutumes, on commet des crimes contre soi-même, et en répandant cela dans la société, on commet un crime contre les pauvres qui pensent que cela fait partie des obligations concernant le mariage. Et dans cette société où l'on voit ces coutumes, ces innovations, ces délits, dans cette société, on est poussé à usurper les droits d'autrui. Et on commet aussi des crimes les uns envers les autres. Mais si nous évitons ces pratiques, nous allons éviter aussi ces délits. Nous n'allons pas usurper les droits des autres. Et nous allons nous attirer le plaisir de Dieu. Et aujourd'hui, à part les Ahmadis, qui peut déclarer que nous sommes de ceux qui parlent à propos du plaisir de Dieu et du respect des droits d'autrui? Aujourd'hui, à part les Ahmadis, qui a prêté allégeance en disant que l'on va pas suivre les coutumes non islamiques et les penchants libertins, à part les Ahmadis, qui a déclaré qu'ils vont se soumettre à l'autorité du Saint-Coran et qu'ils vont considérer la parole d'Allah et les traditions du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, comme principe directeur en toute situation. Les Ahmadis ont prêté allégeance au Messie premier, alayhi salam, afin de profiter de la sunna du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, et de la lumière du Saint-Coran. En ayant accepté ces conditions de la baïa, nous allons devoir respecter cette allégeance. En prêtant allégeance, nous n'allons pas nous asservir. Au contraire, nous allons nous extirper des griffes de Satan. En pratiquant les préceptes de Dieu et de son prophète, nous allons nous protéger. Nous allons éclairer notre compréhension et nous allons aussi protéger notre pureté, notre sainteté. Et nous allons aussi rehausser le niveau de notre pudeur. Et nous allons générer en nous la patience et le contentement. Et nous allons faire naître en nous la taqwa et la pureté. Et nous allons renforcer notre foi. Et nous allons faire des efforts pour assumer nos responsabilités. Et nous allons générer en nous l'amour pour Dieu, la crainte de Dieu. Et nous allons rehausser notre niveau dans ces domaines. Nous allons agir ainsi afin d'atteindre l'objectif même de notre vie. Si nous voulons sortir des ténèbres, si nous voulons acquérir cette lumière, si nous voulons réellement nous acquitter de notre devoir d'allégeance, nous allons devoir éviter ces questions qui concernent ce bas monde et nous allons devoir nous transformer pour le meilleur. Et nous allons devoir faire des efforts pour posséder ces excellences. J'ai évoqué donc la pudeur. La pudeur fait partie de la foi. Comme j'ai dit au tout début, les inventions d'aujourd'hui, la télé, l'Internet, tous ces moyens ont changé la définition de la pudeur. On montre ouvertement des actes indécents et on déclare que ce n'est pas là de l'indécence. Le niveau de pudeur de l'Ahmadi n'est pas le niveau que l'on voit à la télé et à l'Internet. Ce n'est pas là de la pudeur. Agir ainsi signifie tomber dans l'impudicité et l'indécence a affecté certaines familles Ahmadis et cette indécence a défiguré le sens de la pudeur parmi ces gens. Au nom de la pudeur, certains commettent des actions qu'aucune personne juste ne pourra tolérer. Même si ces actions concernent des époux, si ces actions sont commises devant les autres, ces actions seront interdites et deviendront des péchés. Si les familles Ahmadis ne se sont pas protégées de ces actes indécents, ils ne vont pas respecter ce serment qu'ils ont pris et ils vont détruire aussi leur foi. Ils ne vont pas respecter ce serment qu'ils ont pris aux mains de l'imam de l'époque. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré ouvertement qu'al-haya shubatun min al-iman. La pudeur fait partie de la foi. Les jeunes Ahmadis doivent comprendre ce fait. Et ils ne doivent pas tomber dans le filet de l'indécence en suivant les médias d'aujourd'hui. Sinon, ils vont perdre leur foi. C'est en raison de ces actes d'indécence que certaines personnes dépassent les limites et sont excommuniées de la Jamaat. Vous devez tout le temps avoir en tête cette pensée que toute action que j'accomplis doit être accomplie pour la cause de Dieu, pour son plaisir. Dans ce hadith, il est dit que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que l'indécence défigure celui qui est coupable d'indécence et la pudeur et la modestie embellit la personne qui est pudique et modeste. C'est cette beauté qui va générer en cette personne cet intérêt pour accomplir de bonnes œuvres. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que vous devez éprouver de la pudeur face à Dieu tout comme il se doit. Les compagnons ont déclaré que nous remercions Dieu car il nous a accordé cette pudeur. Le saint prophète paix soit sur lui a déclaré qu'il n'en est pas ainsi. La personne qui a de la pudeur doit surveiller son esprit et les pensées qui traversent son esprit. Vous devez surveiller les pensées qui traversent votre esprit. Celui qui a de la pudeur doit protéger son ventre et la nourriture qu'il consomme. Et il doit se souvenir de la mort et des épreuves. Quant à celui qui va regarder l'au-delà, il ne sera pas ébloui par l'éclat de ce monde. Celui qui va adopter cette voie va ressentir réellement de la pudeur. Voilà ce qu'a déclaré le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Donc, on doit se débarrasser de toute pensée impure. On doit ressentir cette pudeur à l'égard de Dieu. S'il y a des mauvaises pensées qui traversent l'esprit, on doit s'en détourner, on doit implorer le pardon de Dieu. Quand les pensées seront pures, les actions seront pures. Et ainsi, on va éviter ces futilités, et ces futilités ne vont point nous affecter. L'on doit aussi faire en sorte qu'on a des revenus licites. On doit faire des efforts licites au lieu d'être avide des biens des autres, au lieu de trouver des moyens illicites pour avoir son gagne-pain. Au Pakistan et ailleurs, il y a cette coutume de pot de vin. Ce ne sont pas là des moyens licites pour avoir des revenus. Le saint prophète a déclaré que vous devez surveiller ce que vous consommez. Cela veut dire tout simplement que l'on doit avoir des moyens licites. Voilà donc les gens qui croient réellement en Allah et en son prophète. Et il y a une prière du Messie premier, l'Islam, afin de rencontrer Dieu. Il déclare « Ô mon Dieu tout-puissant, ô mon guide bien-aimé, guide-nous vers la voie qui mène ceux qui sont purs et véridiques, et protège-nous de ces voies qui invitent à la lascivité, à la haine, à la rancœur, à l'avidité de ce bas monde. » Nous devons donc faire des efforts pour respecter notre serment d'allégeance. Nous devons comprendre ce serment d'allégeance et nous devons être parmi ceux qui croient réellement. Nous devons tout le temps comprendre que nous sommes ceux qui ont accepté ce prophète qui nous a guidés dans la bonne direction, qui nous a enseigné la distinction entre le bien et le mal. Si nous sommes victimes de ces coutumes et si nous allons placer sur nos épaules ce joug, eh bien, nous n'allons pas profiter de cette lumière, nous n'allons pas accomplir nos actes d'adoration. Dans un verset du Saint-Coran, Allah a déclaré à propos du Saint-Prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, que Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'itha ويدعو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. Il leur enjoint le bien et leur interdit le mal et leur rend licite les choses saines et leur interdit les choses malsaines et leur ôte leur fardeau et les entraves qui pesaient sur eux. Il a enlevé donc ces entraves et ces chaînes qui étaient sur eux, sur les peuples d'antan. C'était des peuples qui ont oublié leur religion et qui ont placé sur leurs épaules ces chaînes et ces entraves. À l'instar des chrétiens et des juifs, les musulmans en sont victimes aussi. Et si nous aussi nous en sommes victimes, comment pourrons-nous déclarer que nous allons transmettre le message du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam aux autres? Nous allons donc devoir enlever ces chaînes. Nous devons donc comprendre que nous avons accepté ce prophète qui nous a fait comprendre la distinction entre ce qui est interdit et ce qui est licite et celui qui nous a débarrassé de ces chaînes. Mais comme je l'ai déclaré, les musulmans, malheureusement, ont oublié cela en dépit de ces déclarations claires. Ils ont placé sur les épaules ces chaînes et ces joues. Mais nous, Ahmadi, après avoir prêté allégeance au Messie promis l'Islam, nous avons compris de nouveau cette vérité. Nous avons compris comment se débarrasser de ce joug, de ces chaînes. Par la grâce d'Allah, parmi les Ahmadis, il n'y a pas ceux qui adorent des saints. Il n'y a pas ceux qui vont se prosterner devant des tombes. Il y a peut-être quelques doléances ici et là. Mais par la grâce d'Allah, généralement, nous évitons ces coutumes qui sont condamnables. Mais il y a certaines coutumes qui commencent à gagner du terrain. Si nous ne prenons pas de précautions, alors petit à petit, nous allons placer ces chaînes de nouveau sur nous. Nous allons placer de nouveau sur nos épaules ces chaînes que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a enlevées, des chaînes que le Messie premier l'Islam nous a enseigné d'enlever. Nous allons nous éloigner de la religion. Et dans de tels cas, nous allons sortir hors de la jamaat. Car celui qui se lie à la jamaat est celui qui profite de la lumière. Celui qui profite d'Allah et de son prophète. Voilà la personne qui peut se lier à cette jamaat. Quant à celui qui ne profite pas de Dieu et de son livre, il ne profite pas de cette lumière. Quant à celui qui ne fait pas d'effort de profiter de cette lumière, il va s'éloigner de sa foi. On doit donc tout le temps faire son analyse. Le saint prophète, paix soit sur lui, était lui-même lumière. Il avait reçu cette lumière du ciel et il priait ainsi. « Ô Allah, place de la lumière dans mon cœur et dans les membres de mon corps. » On nous a enseigné cette prière. Cette prière est là pour que nos actions, nos pensées et chaque partie de notre corps agissent en accord aux enseignements de Dieu. Et que l'on doit aussi prier en ce sens. Nous devons donc prier pour que notre esprit soit pur et que ses actions soient là pour la cause de Dieu et pour attirer son plaisir. Qu'Allah nous donne la possibilité de renforcer notre foi, de suivre les préceptes de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'éviter ses coutumes et ses futilités et ses crimes de ce bas monde. Que nous puissions aussi profiter de la lumière de Dieu et que nos actions malheureuses ne nous privent pas de cette lumière. Amin.